Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. C'est bien contre histoire. Alors nous retrouvons Kwame. Nous abordons la deuxième partie de son terrible voyage. Kwame arrive dans cette agglomération qu'on appelle Dirku. J'étais rentrée dans la maison, j'attendais avec les 20 autres qui devaient partir, quand un arabe est arrivé. Tout de suite, il a commencé à discuter avec la dame et on a compris que c'était lui, notre chauffeur. Un blanc, j'ai pensé, il va nous amener. J'avais confiance en lui parce qu'il était blanc. Mais ensuite, il nous a fait sortir et quand j'ai vu la voiture, j'ai recommencé à pleurer. Ce n'était pas un autocar, non. C'était juste un pick-up. Et à le voir comme ça, t'aurais dit qu'il était trop petit pour 10. Alors comment on allait monter à 21 là-dedans? Il a commencé par attacher nos bidons d'eau. Il y avait déjà 2 barriques d'essence dans la benne. Puis il a fixé des piquets de bois sur les flancs du pick-up. Et il a appelé les plus grands d'entre nous à venir un par un. « Toi, toi, toi !» Il leur a montré comment s'asseoir sur les garde-corps de la benne. Le piquet entre les cuisses et les jambes complètement à l'extérieur. De cette façon, ils occupaient très peu de place. Et oui, puisqu'ils étaient assis sur les garde-corps hein, qui ont l'épaisseur des planches hein, et qui se tiennent verticalement, bien sûr. Ils occupaient très peu de place, disons que seules leurs fesses étaient à l'intérieur, posées en équilibre sur les garde-corps, leurs bras entourant le piquet planté pour ne pas tomber. Quand ils ont été installés, le chauffeur a posé les règles. On va affronter le désert. Ça va secouer. Celui qui tombe, tant pis pour lui. Je ne m'arrête pas. Vous risquez votre vie, mais moi aussi, je risque la mienne. Plus on va vite, moins on a de chances de mourir. Compris ? Ils ont acquiescé. Ils n'ont pas protesté. Après ça, il nous a fait venir, nous, les petits. Un par un de nouveau, et il nous a fait asseoir sur le plateau entre les 2 haies formées par les dos des grands. On devait se tenir dans la position de l'œuf, les genoux sous le menton et les bras entourant étroitement les jambes pour occuper le moins de place possible. Mes 2 amis ghanéens étaient avec moi, et j'ai deviné qu'eux aussi étaient surpris de la façon dont le gars nous entassait. Jusqu'ici, on avait voyagé, comme tout le monde, en autocar. C'était la première fois qu'on se trouvait entre les mains des passeurs. Il était peut-être 17h quand nous avons quitté Agadez. Les premiers 1000 kilomètres jusqu'à la frontière entre le Niger et la Libye, la route est goudronnée. Mais le chauffeur nous avait prévenu qu'il y avait des barrages de police et que par moments, il s'écarterait de la route et passerait par le désert pour les éviter. Sur l'asphalte, on ne souffrait pas trop, entassé comme du bétail, mais sur les cailloux du désert, chaque secousse se répercutait dans nos membres ankylosés, et la douleur était si profonde, si insupportable, qu'on ne pouvait pas s'empêcher de pleurer, en suppliant silencieusement le ciel que ça s'arrête. Après 2 jours seulement, nous sommes arrivés dans un village du nom de Dirku. Le dernier, avant le corridor pour la Libye, nous a prévenu le chauffeur. Là, on pouvait aller manger, se promener, dormir un peu si on voulait. On n'allait pas repartir avant le lendemain. Le chauffeur a fixé l'heure du rendez-vous en nous avertissant que celui qui ne serait pas là resterait à Dirku. Avec les 2 Ghanéens, nous sommes partis chercher à manger. Jamais je n'aurais cru qu'un tel endroit existait sur Terre. d'Irkou est en réalité un immense camp de migrants, où des milliers de femmes, d'enfants et d'hommes meurent lentement de faim et de désespoir. Tous te demandent quelques centimes pour manger. Mais tu sais que la seule chose qui fait la différence entre eux et toi, c'est justement le peu d'argent qui te reste dans ta poche. Alors, forcément, tu t'interdis de le donner. Qu'à ton tour, tu n'aies plus d'argent et tu seras condamné comme eux à errer misérablement dans ce village entouré de sable, en attendant d'y mourir. En parlant avec certains, nous avons compris que tous les Africains refoulés de Libye se retrouvent ici. Les policiers et les militaires libyens, qui reçoivent de l'argent de l'ONU pour rapatrier les migrants dans leur pays d'origine, je l'ai appris par la suite, ils les abandonnent en réalité à Dirkou, à quelques kilomètres seulement de leur frontière. Ils ont tout donné pour arriver en Libye, et une fois refoulés dans ce lieu oublié du monde, ils n'ont plus aucun moyen de gagner quoi que ce soit pour rentrer chez eux. Ils sont perdus, destinés à disparaître. À Dirkou, des femmes se prostituent pour 200 francs CFA, soit 20 centimes d'euros, pour s'acheter du pain. Elles mettent au monde des enfants dont elles ne connaissent pas le père et qui sont voués, comme elles, à mourir de faim. Ce jour-là, je me souviens de m'être demandé pour la première fois ce que nous, les Africains, nous avions fait de mal pour être traités moins bien que des animaux. Car on ne laisse pas mourir des animaux de faim. Nous quittons Dirkou un peu avant le lever du jour. Et presque aussitôt, nous roulons à pleine vitesse dans le désert, en soulevant derrière nous des tourbillons de poussière. Le chauffeur a rappelé aux grands de bien se tenir, car une fois rentrés en Libye, nous pouvons être pris en chasse par des patrouilles, et alors il faudra foncer pour leur échapper. Celui qui tombe, personne ne va le chercher, tout le monde s'en fout, c'est bien compris ? Il nous a répété ça pendant qu'on finissait d'enfiler les cagoules et d'ajuster les lunettes pour se protéger du sable. Nous, les petits, ne risquons pas de tomber. Mais la vie des grands, dont les jambes volent au-dessus des roues, parmi les projections de sable et de cailloux, dépend de la solidité des piquets et de leur propre endurance. Que le piquet se casse ou qu'il le lâche dans une secousse ou par fatigue, et ça sera fini pour eux. À la tombée de la nuit, quand le chauffeur s'arrête, nous sommes des momies de sable. Les grands se laissent tomber au sol en gémissant et ils y restent, un moment immobile, le visage caché sous leur cagoule. Tandis que nous, les petits, nous nous traînons à quatre pattes comme des chiens, avant que nos jambes retrouvent la force de nous porter. On ne roule pas le soir, parce que les patrouilles voient les phares de très loin. Mais en revanche, on peut reprendre le voyage dès 4 ou 5 heures du matin. « Maintenant, on dort !» dit le chauffeur. Il s'enferme dans l'habitacle et nous, tous, nous nous couchons autour du pick-up. Mais tu ne peux pas dormir sans couverture dans le désert. Certains en ont une et je les envie. Moi, même avec mon manteau, je suis transi de froid. Et je passe la nuit à grelotter. Quand le chauffeur se réveille et donne le signal, tout le monde commence à reprendre sa place. Les grands ici, les petits là. Celui qui dort, il faut vite le taper pour le réveiller, sinon le mec va partir sans lui. C'est pourquoi on dort toujours avec le groupe. Si tu vas dormir loin, tout seul, qui va se rappeler de toi ? Ce qui nous sauve, nous les petits, c'est qu'à partir de 10 heures, le soleil se met à chauffer. Alors là, en dépit des secousses qui nous font tressauter comme des sacs de riz, tout le monde s'endort dans la benne. Les grands, eux, n'ont pas cette chance, accrochés à leurs piquets, dans le vent et les cahots, comme des bons hommes de chiffon. Ce deuxième jour, le chauffeur s'arrête subitement en début d'après-midi. Il nous fait tous descendre. Et un instant plus tard, il s'est évanoui avec son pick-up. Dans l'horizon qui semble bouillir comme de l'eau à 7 heures du jour. Notre survie dépend de lui. Il est seul et nous sommes 21. Mais personne n'a osé lui demander de compte. Nous avons obéi, nous sommes descendus, sans protester. Et il est parti. Certains disent qu'il est allé chercher de l'essence au Tchad parce qu'il n'en aurait pas eu assez pour traverser tout le désert jusqu'à Tripoli. Maintenant, nous sommes seuls, sous le soleil brûlant, dans le silence, au milieu d'une mer de sable et de cailloux, et par petits groupes, les gars sortent ce qu'ils ont emporté pour manger. Les deux Ghanéens et moi, on a pris chacun 1 kilo de manioc et du sucre. Avec ça, on peut tenir 1 mois, peut-être. Si tu ne le mouilles pas trop, ça te fait comme de la semoule pour le couscous. Si tu le mouilles beaucoup, ça te donne de la bouillie. Comme ça, tu as 2 nourritures. Tous les migrants emportent le manioc. Ils sont sûrs de ne pas mourir de faim. D'autres prennent des sardines en plus. Tu mets une sardine sur ta semoule et ça te fait encore 1/3 nourriture. Tu n'es pas malheureux. Puis quelqu'un dit tout haut que le chauffeur ne va pas revenir. Il va pas revenir, le mec. Pourquoi il reviendrait? Il a pris l'argent. Il s'en fout de nous. Je crois que tout le monde le pensait. En tout cas, moi, je le pensais. Mais maintenant que quelqu'un l'a dit, on commence à imaginer ce qui nous attend. Il nous a laissé l'eau et le manioc. Mais il n'y a sans doute aucun village à moins de 500 kilomètres. Autant dire qu'on va mourir ici. Au fil des heures, on croit de moins en moins à son retour. Par moments, on se dit qu'on va mourir, mais on n'y croit pas non plus trop longtemps. C'est difficile de penser ça, de ne plus penser qu'à ça. Malgré toi, tu es distrait par quelque chose qui te redonne de l'espoir. 6 ou 7 heures s'étaient écoulées, et certains s'étaient déjà allongés pour dormir quand on a entendu le ronflement lointain d'un moteur. Alors, tous, on s'est redressés. C'était incroyable. Plus personne ne pensait qu'il reviendrait, et c'était lui. Il ne nous avait pas abandonnés. Les gars sautaient de joie, dansaient, criaient. Il nous traitait moins bien que des animaux. Mais qu'est-ce qu'il avait retenu de nous laisser mourir? Aujourd'hui encore, je me le demande. Merci d'écouter Contre-Histoire. Vous êtes bien sur Canal Sud. Depuis combien de jours roulions-nous quand les grands nous ont prévenus qu'il y avait un troupeau là-bas, devant? Peut-être des gazelles? Et en effet, le chauffeur a ralenti. Et bientôt, les grands nous ont annoncé que c'était pas des gazelles, mais des gens. Tout un groupe. Et qu'il nous faisait des signes. Qu'est-ce qu'il faisait là au milieu du désert? Le chauffeur s'est arrêté et ils ont commencé à marcher vers le pick-up. « N'approchez pas !» il a crié, en sautant sur le sable et en brandissant son pistolet. Ils se sont arrêtés, à 15 mètres de nous. « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» a demandé quelqu'un. On a été attaqués par des Touaregs. Ils ont emmené le chauffeur et le pick-up. Ils étaient plus de 20, leurs chemises enroulées sur la tête pour se protéger du soleil. « N'approchez pas !» a de nouveau hurlé le chauffeur avec son pistolet. J'ai compris qu'il avait peur qu'ils essayent de monter sur notre pick-up, dans lequel on n'aurait même pas pu ajouter un tout petit enfant. À ce moment-là, j'ai reconnu dans leur groupe les deux Ghanéens qui avaient mangé avec nous à la gare routière d'Accra, ceux qui étaient pressés de partir et avaient trouvé un autocar qui passait par le Togo. On avait failli s'en aller avec eux. Mais on avait déjà acheté nos tickets pour le lundi, alors on avait décidé d'attendre. Je leur ai fait de grands signes. « Hé, c'est nous les gars, on était ensemble à la gare routière. » Avant de comprendre qu'ils ne pouvaient pas me reconnaître sous ma cagoule protectrice du sable et mes lunettes noires, alors j'ai tout enlevé. « Quoi mais ?» ils ont crié. « Merde, vous avez plus de chance que nous !» Ils étaient contents de nous revoir, et nous aussi, les deux Ghanéens et moi. Mais en même temps, ils savaient ce qui les attendait. Tout le monde savait. On n'a presque plus d'eau. On n'a plus rien à manger, a dit l'un d'entre eux. Alors on a commencé à leur jeter des bouts de pain et des petits gâteaux secs qu'ils ont ramassés. Le chauffeur continuait à surveiller qu'aucun ne s'approchait du pick-up. « Aidez-nous !» a dit un homme de leur groupe. « Sinon, on va mourir !» Personne n'a répondu. J'ai pensé que nous aussi, demain ou après-demain, on allait peut-être tomber sur des Touaregs. La dame d'Agadez avait bien dit qu'on n'avait qu'une chance sur deux d'arriver de l'autre côté. Mais qui décidait de qui allait mourir ou de qui allait survivre? Ma mère, qui était musulmane, m'expliquait que celui qui offense Dieu sera puni. N'étions-nous pas en état d'offenser Dieu, nous qui ne faisions rien pour sauver ces hommes? Soudain, le chauffeur est remonté dans la cabine. Il a démarré très vite, comme s'il s'enfuyait. Mais aucun n'a tenté de courir pour sauter dans la benne. Quelques-uns ont agité les bras, comme si on devait se revoir. Peut-être le lendemain ou le surlendemain, comme le chauffeur s'était arrêté pour faire sa prière, on a remarqué qu'il y avait des passeports posés sur le sable. « C'est quoi, ces passeports ?» on a demandé. « Des gens, comme ceux qu'on a vus l'autre jour. La prochaine fois qu'un pick-up passera par là, ils seront morts, et on les enterrera sous le sable, avec les papiers posés dessus. » Des gars de notre groupe sont partis fouiller dans les passeports pour voir s'ils n'en connaissaient pas certains. Ils ont dit que si c'était le cas, ils préviendraient leur famille depuis Tripoli. Mais aucun ne connaissait ceux qui étaient morts ici. Un ou deux jours plus tard, le chauffeur nous a dit qu'on n'était plus qu'à 1 heure de Gatron, la première ville libyenne. Maintenant, on était sauvés. On ne risquait plus rien. Alors certains ont commencé à vider leurs bidons d'eau dans le sable, en chantant, en riant. Nous, on a laissé les nôtres avec l'eau dedans, au cas où il y aurait des migrants qui arriveraient à pied jusqu'ici. On ne savait pas ce qui nous attendait à Gatron, mais on était fiers et heureux d'avoir vaincu cette première partie du désert, d'être sortis vivants de ces jours terribles qui nous laissaient des douleurs dans tout le corps. Continue, vous êtes d'accord? C'est dur contre histoire, quelquefois. Le chauffeur fonçait sur Gatron. On avait tous le sourire parce que dans une demi-heure, peut-être, on serait libre. Libre de marcher dans la ville, de boire et de manger, autant qu'on le voudrait. On pensait à ça, on se réjouissait, on avait hâte d'arriver. Quand 3 voitures ont surgi, d'on ne sait pas où, elles sont venues prendre position autour de nous. Une s'est mise devant, nous projetant tous en sable, les 2 autres de chaque côté. Alors seulement, on a vu que c'était la police libyenne. Mon cœur s'est arrêté de battre quand j'ai compris. qu'allait-il faire de nous? Nous continuions de rouler à pleine vitesse, mais dans quelle direction? Le chauffeur était bien forcé d'obéir, d'aller là où la police voulait nous conduire. Après je ne sais pas combien de kilomètres, nous sommes arrivés devant ce qui ressemblait à une caserne, en plein désert. Des grillages et des barbelés l'entouraient. Le pick-up est entré dans la cour intérieure, suivi par une voiture de la police, et là on a vu que c'était une prison. Les policiers nous ont fait descendre. Ils ont pris les passeports de ceux qui en avaient, ceux qui, comme moi, n'avaient rien, ils ont laissé. « T'as pas de papier? Pas d'identité? Ils s'en foutent. Ils ne cherchent même pas à savoir qui tu es. Ils te poussent avec le reste du groupe. » Après ça, ils nous ont fait entrer dans la partie où ils enferment les migrants. Et là, d'un seul coup, c'est encore une chose que je n'aurais pas pu imaginer. Des dizaines, et même des centaines d'hommes comme nous, vêtus de chiffons, sans plus aucune lumière dans le regard, certains debout, la plupart assis par terre, entassés, de telle façon qu'ils ne peuvent plus bouger. Peut-être 20 personnes par cellule, sous un toit de tôle, avec juste une couverture pour te mettre sur le dos et dormir. Quand j'ai compris qu'ils ne nous libéreraient que pour nous ramener à Dirkou et qu'il n'était pas question pour eux que nous restions en Libye, je me suis mis à pleurer. À pleurer. J'avais fait des milliers de kilomètres pour fuir les assassins de mes parents, et tout ça pour me retrouver bientôt à mendier parmi les oubliés de Dirkou. En attendant quoi? De tomber? De mourir? Là-bas, il n'y a plus rien à attendre, plus rien à espérer. Toute la nuit, j'ai pleuré, et le lendemain, ma décision était prise. S'il me ramenait dans cette ville maudite, je mettrais fin à mes jours. Un espoir a pourtant surgi très vite, porté par mes deux amis ghanéens et par un troisième rencontré dans leur cellule. Ils allaient s'évader, et bien sûr ils m'emmèneraient avec eux si j'étais partant. Si tu t'évades et qu'ils te retrouvent, ils te tuent aussitôt, Kwame. Mais il faut que tu le saches avant de prendre ta décision. Ils ne te ramènent pas à la prison, ils te tuent. Je m'évade avec vous. Qu'il me tue me semblait préférable à devoir me tuer moi-même. Une fois sorti de la prison, sans eau ni nourriture, il faudra sortir vivant du désert. Et ça sera sans doute plus difficile encore. Oui, mais je préfère m'évader avec vous qu'être ramené à Dirkou. S'évader de la prison de Gatron, ce n'est pas seulement réussir à franchir la clôture de barbelés. C'est d'abord parvenir à creuser le mur et à s'enfuir par le trou. Pour creuser, nous n'avons rien d'autre que des cuillères et des fourchettes. Au troisième jour, les Ghanéens renoncent. Moi, je n'ai pas la force de creuser tout seul. Alors je tombe dans une tristesse qui m'enlève même l'envie de manger. De toute façon, la nourriture nous rend malades tous. De la farine, avec un peu de riz parfois, sur laquelle on verse du concentré de tomate, de l'eau et du sel. Ça fait une sorte de purée. Tu manges ça et 5 minutes plus tard, tu dois courir aux toilettes, car ça ne reste pas dans ton ventre. Devant les toilettes, il y a une queue qui n'en finit pas. 3 toilettes pour 300 ou 400 prisonniers. Tu peux devoir attendre plusieurs heures en te tenant le ventre. Et finalement, tu fais sur toi. Les toilettes sont plus dégoûtantes qu'une porcherie. Si les policiers passent par là, ils vont te dire de nettoyer. Mais qui peut nettoyer ça? Après 2 semaines, ils nous préviennent qu'ils vont nous rapatrier, c'est-à-dire nous ramener à Dirkou. Nous sommes tous bien trop épuisés par ce que nous venons de traverser pour leur faire remarquer que Dirkou n'est pas notre patrie. Et puis, qui sommes-nous dans le regard des Libyens? Ils nous font sortir par petits groupes. Et bientôt, nous sommes 221 debout, dans le sable, encadrés par des policiers armés. Je n'ai jamais oublié ce chiffre. 221. « Vous voyez le camion devant ?» nous dit un des policiers. « Eh bien, vous allez courir et grimper dedans. Celui qui n'arrive pas à monter, il restera en prison jusqu'au prochain convoi. Les autres seront débarqués au Niger. Un conseil, ne tentez pas de revenir. Vous êtes prêts à courir ? Top, partez !» Le camion, c'est un poids lourd, avec une benne de 3 mètres de haut, peut-être. Nous nous sommes tous mis à courir parce que tout le monde préférait maintenant mourir à Dirkou que passer une journée de plus dans cette prison. Mais arrivés sous la muraille d'acier de la benne, nous nous sommes donné un spectacle aux gardiens, qui savaient ce qui allait arriver, bien sûr. Aujourd'hui, je peux imaginer comme ils doivent attendre ce moment et combien chaque fois ils s'amusent. Les gars se montaient dessus pour parvenir à grimper. Ils s'arrachaient les vêtements. Certains perdaient leurs pantalons et quand l'un y était presque hors d'haleine, à moitié nu, 3 autres se suspendaient à son pied et le faisaient retomber. C'était une mêlée inextricable et je devine combien les gardiens ont dû rire, et même par la suite se raconter les meilleurs moments. Quant à moi, je me souviens m'être jeté 10 fois sur cette paroi lisse qui n'offrait aucune prise, la poitrine en feu, et être retombé autant de fois. Quand j'étais prêt à renoncer, couché sur le sable et piétiné par les autres, le souvenir de la prison me faisait me relever et recommencer. Finalement, quelqu'un a saisi ma main, un de mes 2 amis ghanéens, et j'ai basculé dans la benne. Voilà donc comment les Libyens rapatrient les migrants, en réquisitionnant les poids lourds qui montent du Niger ou d'ailleurs avec leur cargaison et qui repartent à vide. Quand le camion a démarré, il devait être autour de 17 heures. Car déjà la nuit tombait. Vous commencez à imaginer le voyage de Kwame. Contre-histoire continue. Nous roulions depuis plusieurs heures dans le froid et l'obscurité, entassés au fond de la benne, quand nous avons vu des phares illuminer le camion et le ciel au-dessus de nous. La voiture est venue à hauteur du chauffeur et un instant plus tard, le poids lourd s'est arrêté. Un policier en uniforme, probablement monté sur le toit de son pick-up, a surgi au-dessus de nos têtes. « Je vais prendre 15 d'entre vous pour les emmener à Tripoli. C'est 100 € par personne. Que ceux qui ont l'argent et veulent aller en Libye descendent du camion. » On n'avait encore jamais vu un policier passeur. Et mes 2 amis ghanéens ont tout de suite dit « Non, faut pas y aller. Aussi bien, il va te prendre tes 100 € et te remettre en prison. » Mais moi, j'ai dit « Je vais le faire. Je préfère courir le risque que de retourner à Dirkou. » Et il me restait juste 100 € que je cachais dans mes fesses. Tu roules les sous dans du scotch noir, comme tu roules une cigarette. Tu frottes avec du gel pour que ce soit bien glissant. Et tu le rentres dans ton anus. J'ai dit au revoir aux Ghanéens et j'ai sauté dans le sable. On était peut-être 60 ou 80 à vouloir partir et il a commencé à choisir. Toi, 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 et il m'a choisi. À chacun, il a pris 100 euros, 1500 euros au total, qu'il a glissé dans sa poche. Et il a ordonné aux autres de remonter dans la benne. Je ne sais pas comment ils ont réussi à le faire, en pleine nuit, dans le froid et le ventre vide. Parce que nous, il nous a fait aussitôt grimper dans son pick-up, 5 devant dans la cabine et les 10 autres à l'arrière. Une minute plus tard, nous roulions de nouveau vers Gatron et le camion était toujours immobilisé sur la piste. Cette fois, je n'avais plus un sou. Tout l'argent de sœur Claudine était parti. J'étais absolument nue, à la merci des événements, de la faim, de la misère, de la mort, et seule. C'était à cela que je pensais, tandis que nous roulions dans la nuit. Peut-être nous ramenait-il à la prison, mais peut-être pas. Si c'était la prison, elle serait mon tombeau, car je n'avais plus de force. Si c'était la liberté, eh bien, ça serait le signe que sœur Claudine continuait à guider mes pas. C'était la liberté. Vers 4 heures du matin, nous sommes entrés dans la ville de Gatron et le policier nous a emmenés chez lui. Il nous a donné à manger et à boire et il a téléphoné à l'un de ses collègues. « Vous restez là tranquillement, » il a dit. « Mon ami va venir dans un moment et vous emmener jusqu'à Sheba. De là, quelqu'un d'autre vous conduira jusqu'à Tripoli. » J'ai pensé qu'avec des policiers pour passeurs, nous étions sans doute plus en sécurité qu'avec de simples passeurs, car on n'a jamais vu des policiers en embêter d'autres. Et je me suis endormie par terre, dans un coin de la maison. En effet, un autre policier est arrivé dans la matinée et nous a embarqués tous les 15 dans son pick-up. De Gatron à Sheba, il y a environ 300 kilomètres, que nous avons fait en une journée et une nuit. Avant les barrages, le policier nous recouvrait d'une bâche, alors la chaleur devenait suffocante. On l'entendait bavarder avec ses collègues. Il disait que c'était des moutons sous la bâche et les autres riaient. Peut-être le croyait-il, car la plupart des Libyens élèvent des moutons. Mais ce qui me fait penser le contraire, c'est qu'aucun n'a pris la peine de vérifier. Arrivé à Sheba, le policier nous a d'ailleurs cachés parmi ses moutons, ses vrais moutons, plutôt que de nous emmener chez lui. Il faisait nuit. Il nous a ouvert l'enclos et nous a ordonné de nous faufiler à quatre pattes, entre les bêtes, et de rester là, sans nous relever surtout, jusqu'à ce qu'un de ses collègues vienne nous chercher. Nous devions nous confondre avec les moutons pour que personne ne nous repère. Mais au contraire des moutons, nous n'avions pas le droit de faire pipi dans l'herbe. À peine dans l'enclos, l'un d'entre nous a uriné, ne pensant pas qu'une telle chose pouvait être interdite. Et le policier, en entendant le bruit du jet, s'est mis à hurler « Qui est en train de pisser? Si tu veux pisser, connard, tu sors de l'enclos. » Bien sûr, le gars ne s'est pas dénoncé. Alors, le policier nous a frappés, chacun à notre tour, avec son bâton, menaçant de tuer celui qu'il surprendrait, en train de se soulager. Son collègue est bien venu nous récupérer, dans l'enclos le lendemain matin, peu avant l'aube. Avec lui, nous avons parcouru les 500 kilomètres qui nous séparaient encore de Tripoli, quand, nous écartant de la route goudronnée pour emprunter le désert, tantôt sous une bâche, quand il n'y avait pas moyen d'éviter le barrage. Et voilà, j'étais arrivée à Tripoli. Avec juste ce que j'avais sur moi, une chemise qui n'avait pas été lavée depuis que sœur Claudine m'avait mis dans le car, un pantalon déchiré au genou, des sandales et dans mon sac le manteau acheté à Agadez et ma carte d'identité scolaire. Depuis combien de temps est-ce que je voyageais? Je dirais 2 mois à peu près. Et maintenant, je n'avais plus un sou pour manger. Rien. Quand ils te déposent à Tripoli, ils te mettent dans une maison qu'ils ont louée pour ça, pour les migrants. Tu peux y rester 2 jours, le temps de te trouver un autre endroit. Et après ça, tu dois partir pour laisser la place à ceux qui arrivent. Je suis sortie. J'ai commencé à marcher un peu dans les rues autour de la maison. J'avais peur de ne pas la retrouver, alors je décrivais des cercles de plus en plus larges, mais je revenais entre chacun d'eux. La ville ne ressemblait pas du tout à celle où j'avais grandi. Ici, les rues étaient défoncées, encombrées de voitures déglinguées, dont certaines n'avaient même plus de roues. Et partout, des maisons étaient en construction, hérissées de fer à béton. Mon idée était de trouver du travail, n'importe quel travail, pour que le soir on me donne de l'argent et que je puisse m'acheter à manger. Je me répétais ce que disaient les 2 Ghanéens. En Libye, il y a du boulot. Là-bas, t'es content, tu peux vivre tranquille. Sur le moment, je m'étais imaginé un pays où les gens t'attendent pour te donner du travail. Tu n'as rien à faire, toi? Tiens, prends donc la brouette, là. Tu vas m'aider. Je ne croyais plus que la nourriture était gratuite, mais je me figurais des gens heureux et souriants partout, des gens qui t'accueillent comme si tu étais déjà leur ami. Ce n'était pas du tout comme ça. Personne ne m'adressait la parole, ni ne me prêtait attention. Et même des voitures me frôlaient en klaxonnant, comme si elles n'étaient pas trop contentes de me voir ici. J'étais arrêtée devant une épicerie et je pensais que j'avais faim. Quand un noir en est sorti avec du pain sous le bras et d'autres choses à manger dans un sac. C'était le premier noir que je voyais à Tripoli. Je le regarde et lui aussi me regarde. En moi-même, je me dis qu'il doit être sénégalais. Lui, je ne sais pas ce qu'il se dit, il paraît surpris de me trouver là, mais il continue son chemin. L'après-midi même, je le revois. Il marche sur le trottoir et tout de suite je le reconnais. Tiens, voilà encore le Sénégalais. Comme on va se croiser, il se rappelle de moi, lui aussi. Il ne me sourit pas, mais il a l'air embêté. C'est ça qui me donne la force de l'aborder. Je t'ai déjà vu ce matin, je dis doucement. Moi, je viens d'arriver, je ne connais personne. Comme il me répond en arabe, je ne comprends rien. « Tu n'es pas sénégalais ?» je lui demande, en Ashanti. « Non, moi je suis ghanéen. » En Ashanti cette fois. « T'es ghanéen aussi, toi ?»« Non, mais je parle l'Ashanti et le français. » Alors je lui explique un peu qui je suis, d'où je viens, sans lui dire la vérité sur mes parents. Aussitôt, il commence à me gronder, à m'insulter. « Mais t'es un enfant, toi! Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu connais qui, ici? Tu crois qu'un petit comme toi, il peut vivre tout seul à Tripoli? C'est pas facile, la vie, ici. Quand t'es africain, c'est encore plus difficile. T'as quel âge? Bientôt 15 ans. »« 15 ans? Merde! Qu'est-ce que tu peux faire ici à 15 ans à Tripoli? » Et puis il se tait et me regarde. « Depuis quand t'as pas mangé ?»« Ça va, j'ai pas faim. »« Je ne peux pas te laisser comme ça. Viens avec moi. » Un moment, nous marchons côte à côte, silencieusement, et nous entrons dans une maison en chantier. « C'est ici. Suis-moi. Et fais attention à ne pas tomber dans l'escalier. Il n'y a pas encore de rambarde. » Nous pénétrons dans une pièce où un ouvrier est en train de crépir les murs. « Je te présente Prince, il est ghanéen comme moi. » Et se tournant vers Prince, « Il s'appelle Kwame, c'est un petit, je l'ai trouvé dans la rue. Il va d'abord manger, hein, et on verra ensuite ce qu'on peut faire. » Ouais, dit Prince. L'homme qui m'a récupéré s'appelle Daniel. Lui aussi fait du crépi. Ils habitent tous les deux sur le chantier. Pendant que je mange le reste de leur repas, je les regarde travailler. À Tripoli, m'explique Daniel, les Égyptiens construisent les maisons. Les Tunisiens font les carrelages et les Ghanéens le crépi. Le propriétaire libyen te paie 3 dinars le mètre carré de crépi. Et pendant toute la durée du chantier, tu peux habiter sur place. Daniel et Prince sont là depuis 2 mois déjà. Ils ont leur matelas, un canapé et un réchaud pour la cuisine. Chaque semaine, le propriétaire leur donne en plus un sac de riz, un sac de farine, de l'huile, des tomates et du sel. Le Ghanéen ne paie que la viande. C'est la règle. Tout le reste est gratuit. Voilà pourquoi, je me dis en les écoutant, on raconte au Ghana que la nourriture est gratuite en Libye. Quand le soir tombe et qu'ils s'arrêtent de travailler, je suis toujours là à les regarder laver leurs outils. « Bon, tu vas dormir ici ce soir, » me dit Daniel. « Tripoli, la nuit, c'est dangereux. Tu peux te faire tuer comme ça parce qu'ils s'en foutent de toi. Mets-toi sur le canapé et prends cette couverture. Tu seras bien. » Deux jours passent et je suis toujours avec eux. Daniel semblait silencieux. Je l'avais entendu dire à Prince que le problème c'était le propriétaire. Certains ne veulent pas que tu fasses venir n'importe qui sur le chantier. C'est qui celui-là? C'est pas un hôtel ici. Mais quand le propriétaire est venu, tout s'est arrangé. Il s'en fiche que j'habite là du moment que les travaux avancent. « On va même gagner du temps, » lui a dit Prince, « parce que Kwame, il sait faire à manger. » C'était faux, mais le dire nous a donné l'idée. Le lendemain, Prince m'a pris avec lui pour aller à l'épicerie. « Apprends bien le chemin, et demain tu iras tout seul. » Maintenant, c'est moi qui vais à l'épicerie chercher le pain, la viande et de quoi faire le café. Ils m'ont expliqué comment cuire la viande et préparer le riz. Au début, c'était pas très bon, mais ils prennent ça à la rigolade. Faut améliorer un peu ta technique, Kwame. Je regrette, secrètement, de ne pas avoir suivi les cours de ma mère avec ma grande sœur, au lieu de regarder la télévision avec mon père. Mais je réfléchis, je comprends, et je ne refais pas les mêmes erreurs. Ils trouvent ça meilleur. « De mieux en mieux, Kwame !» ils disent en riant et avec l'air de se régaler. Après une dizaine de jours, j'ai le sentiment que nous sommes bien ensemble et que ça peut durer. Est-ce encore la main de sœur Claudine ou ses prières? En tout cas, voilà plusieurs fois que, me croyant perdue, j'ai vu apparaître quelqu'un qui m'a redonné espoir. Bien sûr, nous ne sommes pas une famille. Eux, ils ont chacun la leur au Ghana. Et un jour, ils repartiront. Mais pouvoir seulement me projeter dans 8 jours, me dire que toutes ces nuits qui viennent, je n'ai plus à me soucier de savoir où dormir, que je ne risque rien, et même que j'ai quelqu'un pour me protéger, ça me suffit bien. Bientôt, notre emploi du temps ressemble d'ailleurs à celui d'une famille. Eux se lèvent à 4 heures du matin et aussitôt ils se mettent au travail. Moi, je dors jusqu'à 7 heures. Et quand je me réveille, je prépare le café pour nous trois. Je les appelle et nous prenons ensemble le petit déjeuner. Ensuite, je les regarde travailler pour apprendre. J'écoute ce qu'ils m'expliquent en essayant de répéter les gestes. Puis je pars à l'épicerie et je me mets à la cuisine. Quand tout est prêt, je vais les chercher. Et c'est un plaisir de manger tous les trois. Désormais, le soir, c'est moi qui nettoie leurs outils. Je m'applique pour qu'ils les trouvent bien propres le lendemain. Des outils sales font de mauvais crépi. Au fil des jours, je commence à imaginer que je pourrais apprendre ce métier et que, comme je l'avais envisagé à Accra, travailler et vivre à Tripoli. Les chantiers ne manquent pas. Et si tu es Ghanéen, tu as toutes les chances de te voir confier le crépi. Daniel et Prince me croient capable de faire aussi bien qu'eux. Et je deviens leur apprenti. C'est maintenant décidé. C'est moi qui mélange le sable et le ciment. Je le mouille comme il faut. Et je leur tends le seau. Puis je perfectionne mon geste. Et il arrive qu'ils me donnent un petit endroit à crépir et qu'ils viennent ensuite inspecter en m'expliquant tout ce qui ne va pas. Je suis à Tripoli depuis plusieurs semaines et quand tous les deux parlent du jour où ils rentreront au Ghana, je sens la tristesse des premiers temps me tomber dessus. Pourquoi les choses se défendent-elles? Pourquoi rien ne semble durer? Tu rentreras avec nous, Kwame. Ici, c'est bien pour quelques mois. Tu gagnes beaucoup, mais il faut pas rester. Pourquoi faut pas rester? Parce que ça peut tourner mal un jour. Tu ne vois pas comment les Libyens te regardent? L'épicier, il est gentil. Tu ne connais que l'épicier. Quand tu feras tes affaires toi-même, tu comprendras. Je comprends un peu tard. Quand arrive la fête de Tabaski, qui est aux Libyens ce que Noël est aux Européens. Ce jour-là, les enfants sont rois. Ils reçoivent des cadeaux de leurs parents. Et toutes les familles se retrouvent dehors pour manger, se réjouir et faire la fête. Pour nous, c'est une journée normale. Et comme les autres jours, je vais à l'épicerie. Il y a des dizaines d'enfants dans la rue que leurs parents surveillent, assis sur des fauteuils qu'ils ont sortis sur le trottoir. Moi, je passe en souriant et je m'apprête à leur dire bonjour. Mais alors les enfants m'aperçoivent et aussitôt ils se mettent à hurler « Galan, Galan !» Et ils commencent à me jeter des pierres. Comme je vois que les parents rient et applaudissent, j'imagine d'abord que c'est un jeu. Puis plusieurs pierres m'atteignent à la tête, au thorax. Et comme les enfants se rapprochent en hurlant, je me mets à courir pour leur échapper et regagner le chantier. J'ai un peu de sang sur le visage et sur les mains quand je retrouve Daniel et Prince. Je me suis fait attaquer par des enfants. Ils criaient « Galan, Galan !» Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu as bien fait de t'enfuir. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Galan ? Tu veux vraiment le savoir? Ça veut dire un singe, un singe. Tu comprends maintenant comment les Libyens te regardent? Les Libyens ont besoin des Ghanéens pour le crépi, mais ils ne sont pas nos amis. Maintenant, je travaille avec Daniel et Prince et j'apprends à me défendre. J'apprends tout ce qu'il faut savoir pour faire des affaires dans ce pays. Le propriétaire, il te dit qu'il va te payer quand le chantier sera fini. Et si tu ne sais pas comment ça se passe ici, tu dis « oui, d'accord », parce que tu es content d'avoir trouvé du travail. Mais quand le chantier est fini, il s'en fiche de toi. Il te dit de partir de là et qu'il ne veut plus te voir traîner dans le quartier. Qu'est-ce que tu peux faire contre lui ? Rien du tout. T'as pas de papier. Et en plus, tu es noir. Il a un pistolet accroché à sa ceinture. Il pourrait te tuer sur le trottoir, que même la police rigolerait. Le bon moyen, c'est de lui demander de te donner ce qu'il te doit à la fin de chaque semaine. Tant qu'il a besoin de toi pour terminer sa maison, tu es son ami, il va payer. Mais aussitôt que tout est fini, il ne te connaît plus. Déjà, la fin du chantier, c'est pas gagné. S'il fait construire sa maison, c'est qu'il va se marier. Et c'est à sa fiancée de décider si le crépi est bien fait. Gare à toi si elle dit qu'il n'est pas joli. alors tu vas devoir tout recommencer. Le jour où il vient avec elle pour la visite, on doit te tenir enfermé dans une pièce. On n'a pas le droit de voir sa fiancée. C'est la coutume là-bas. On ne doit pas regarder la femme d'un autre. Même dans la rue, si tu croises le regard d'une fille et que le gars te voit, ta mort est pas loin. Donc, la fiancée visite toute la maison. Et si elle est contente, le propriétaire va l'enfermer dans sa voiture et il revient pour te payer. À partir de ce moment-là, tu dois partir vite, car il est capable d'aller prévenir les petits voleurs du quartier qui vont arriver pour te braquer. Ils prendront une partie de l'argent et ils rendront le reste au propriétaire. Tout au long du chantier, la question de l'argent est un souci, puisque nous sommes clandestins en Libye et nous n'avons pas le droit d'ouvrir un compte en banque. Chaque semaine, quand le propriétaire nous paye, on met dans la poche les sous pour la nourriture et le reste, on le cache à l'intérieur d'un mur. Tu fais un trou, tu glisses l'argent à l'intérieur et tu refermes avec du ciment. Quand le chantier est fini, tu ramasses tout ton argent et tu t'en vas, vite. Alors tu as des dinars dans ta poche, une grosse somme, et il faut les changer en dollars sans tarder si tu ne veux pas tout perdre, parce que le dinar ne vaut rien du tout. Toi, le noir, tu ne peux pas entrer dans une banque. Il y a des Arabes qui sont là pour aller changer ton argent. Tu prends ton téléphone et le gars te fixe un rendez-vous. Il faut trouver un homme de confiance, un qui a peur de Dieu. Heureusement, beaucoup de Libyens ont peur de Dieu. C'est la seule chose qui nous aide là-bas. Tu lui remets tout ton argent, il va à la banque et il revient avec des dollars. Pour le service, il te prend 50 dollars. C'est comme ça qu'il gagne sa vie. D'autres Arabes sont là pour envoyer les sous des migrants à leur famille au Ghana, au Niger, au Togo ou ailleurs. Ils se chargent d'entrer dans l'agence, de faire les papiers et eux aussi te prennent 50 dollars pour ça. Les Ghanéens se connaissent bien entre eux et quand un chantier est fini, ils vont habiter provisoirement sur un autre chantier de Ghanéens en attendant d'être embauchés ailleurs. Personne n'a de maison. On va de chantier en chantier. C'est ce que nous faisons avec Daniel et Prince. Nous sommes maintenant une équipe de 3 sur les chantiers et je touche autant d'argent qu'eux. Aujourd'hui, avec du recul, j'ai du mal à parler du garçon que j'ai été durant cette période libyenne qui a duré une année environ. Nous avons fêté là-bas mes 16 ans. Dans mon souvenir, je pense rarement à mes parents et à ma grande sœur. On dirait que la souffrance s'est détachée de moi. Elle est encore là, à certains moments, je peux l'entendre bouger et respirer, mais comme un chat qui dort. La vérité, c'est que je suis trop occupée à vivre, ou plutôt à survivre, dans un pays où chaque jour je peux être tuée, pour songer à tout ce que j'ai perdu. Le travail du crépi et la méfiance quotidienne épuisent mes forces. D'ailleurs, la nuit, je dors d'une traite. À peine allongée, je m'endors. Parfois, je me dis que si on m'avait interrogé durant ces mois où nous courions après le travail et l'argent, attentifs aux dangers multiples qui nous guettaient, j'aurais peut-être répondu spontanément que je construisais ma vie de demain, que je croyais en l'avenir, que je n'étais pas malheureux, sans voir que je survivais au-dessus d'un gouffre. Je sais bien, aujourd'hui, que le malheur est entêté, et que si tu peux l'oublier, un moment, lui, et ne t'oublie pas. Nous serons avec Kwame sur le Zodiac la semaine prochaine.